Vous écoutez RTL.
L'enquête sur le double meurtre de Jean-Baptiste Salvin et de Jessica Schneider avance en juin 2016. Une liste de 2626 policiers a été retrouvée chez une jeune femme radicalisée et nous allons parler immédiatement.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de criminologie, spécialiste du renseignement. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Comment un tel document a-t-il pu se retrouver entre les mains d'une individu radicalisé ?
Eh bien parce que dans un ministère, fût-il celui de l'intérieur, on a une direction des ressources humaines et que la direction des ressources humaines a des listes de noms pour payer les salaires, gérer les promotions, faire la RTT, le glissement vieillesse technicité. Et quand vous fusionnez plusieurs services, eh bien vous mettez à la disposition des partenaires sociaux la liste des personnels qui vont fusionner pour gérer la gestion de leurs intérêts. Cette liste date de 2008, elle a servi à fusionner l'ancienne DST avec les anciens renseignements généraux, oui. Et elle a été donc largement diffusée en 2008 avec un assez faible souci de sécurisation de l'outil en question.
Vous êtes en train de nous dire que ça a fini chez les syndicalistes ?
Ah, ça a mécaniquement fini, c'est obligatoire, comme dans toutes les commissions paritaires, les commissions techniques, comme dans toute la fonction publique et d'ailleurs un très grand nombre d'entreprises privées.
Je rappelle qu'il s'agit d'un document interne, administratif, datant de 2008, listant ces policiers qui vont rejoindre la DCRI, comme vous venez de le rappeler, nés de la fusion des renseignements généraux et de la direction de la surveillance du territoire. Il n'y a pas une... Je dirais, ce type de liste ne bénéficie pas d'un encadrement spécifique.
Ça devrait, mais ça n'est pas la culture de la partie RH, qui est d'ailleurs la plus faible direction du ministère de l'Intérieur, qui longtemps d'ailleurs n'existait pas. En fait, le ministère de l'Intérieur sous-traitait, oui, à chacune de ses directions le fonctionnement de ses ressources humaines. Disons que c'est le truc que personne n'a traité à l'époque dans des conditions intelligentes et intelligibles.
Pardon de ma réaction aussi simpliste, mais enfin, c'est extrêmement inquiétant qu'un tel document ne soit pas confidentiel.
Ah, c'est extrêmement inquiétant qu'il soit même diffusé. Bien normalement, sûr. Ce genre de choses, on le fait dans ce qu'on appelle une black room ou une war room, c'est-à-dire qu'on vient consulter les documents et on ne repart pas avec, et on vous confisque votre portable à l'entrée. Mais la relation de confiance qui existe aussi avec des partenaires sociaux à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, dont je rappelle que c'est un des ministères les plus co-gérés, mais oui, de la République avec celui de l'Éducation nationale, on les appelle d'ailleurs Mamoutin et Mamoutin 2, explique sans doute ces petites libertés avec les règles de sécurité les plus élémentaires.
Est-ce que sur ces listes, il pouvait y avoir des adresses ?
Pour l'instant, sur ces listes, il y a des directions, des noms, des prénoms, mais il n'y a pas d'adresse individuelle.
Alors, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une fuite au niveau des syndicats de police ?
Alors, c'est
que
même
nous,
pas...
journalistes, je me permets de le dire parce qu'il faut être honnête jusqu'au bout, cultivons énormément, oui, et qui nous font des confidences, ça fait partie de notre métier, mais oui, voilà.
Et je dois dire, pour avoir vécu ici quelques événements beaucoup plus tragiques, oui, en direct, que la retenue de vos confrères qui disposent d'informations de première main et de très grande qualité est aussi à leur honneur, parce que si vous diffusiez tout ce que vous savez, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sujets de préoccupation. Mais non, le sujet, à mon avis, est qu'on va probablement découvrir assez rapidement que il s'agit d'un fichier fantôme, d'un fichier qui est resté résiduellement sur une clé USB, mais qui n'était pas disponible, qui donnait l'impression que la clé était vide et pas qu'elle était pleine, et que peut-être ça n'enlève rien à ce que j'ai expliqué précédemment.
Pardonnez-moi, que de bonne foi, on pouvait imaginer...
Que cette clé était vide.
Voilà, que cette clé était vide, alors qu'il traînait en quelque sorte ce fichier.
Disons que seuls les moyens techniques permettent de retrouver des très anciens fichiers, parce que l'effacement des données, comme M. Zuckerberg essaye désespérément de l'expliquer ces jours-ci, est un sujet un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Ceci dit, ça n'enlève rien à la sécurisation des éléments de ressources humaines du ministère de l'Intérieur, oui, qui est, depuis la création de la DGSI, beaucoup plus sûr et beaucoup plus structuré. Mais ce document de 2008, lui, il a existé et il a été très largement diffusé.
Là, vous venez de nous expliquer très clairement comment, on va dire, ce document avait pu sortir. Mais après, il y a toutes sortes d'endroits où il peut finir. Le problème là, c'est qu'il finit entre les mains d'une jeune femme radicalisée. Est-ce que là-dessus, on a des éléments, et comment l'expliquez-vous ?
L'enquête est en train de démontrer qu'elle aurait pu être hébergée chez quelqu'un qui elle-même avait accès ou aurait pu avoir accès, pour des raisons de ses fonctions ou d'anciennes fonctions syndicales, à cette liste. et que soit elle l'avait conservé, ce qui arrive malencontreusement en la matière, et ce qui revient à mon élément du départ, c'est qu'elle n'aurait même pas dû exister, même si elle aurait pu être consultée. C'est un sujet de sécurisation naturel pour les fichiers sensibles. Et deuxièmement, que peut-être elle l'avait effacé sans la détruire, et ce que j'appelle l'existence du fichier fantôme.
Des listes comme ça, il peut y en avoir encore qui traînent.
Bien sûr, en 2008, il y en a eu considérablement diffusé, comme lors de toutes les fusions et les restructurations, parce que les intérêts des personnels doivent être défendus par des gens qui sont censés savoir ce qu'ils défendent.
Oui, ce qui veut dire aussi que d'autres personnes peuvent l'avoir en leur possession aujourd'hui.
Bien sûr.
Et notamment des individus dangereux.
Éventuellement des individus dangereux, s'ils ont accès par la légèreté de quelqu'un qui accueille chez lui des gens ou qui fournit des clés supposément vierges alors qu'elles ont encore des moyens d'accès. Mais bien sûr, c'est un sujet général de culture du secret, mais si vous prenez le TGV ou l'avion, vous êtes toujours extraordinairement surpris du nombre de secrets d'alcôve ou d'affaires que vous entendez, parce que les gens considèrent que le train et l'avion sont des endroits sûrs où personne n'écoute rien. Vous pouvez raconter toute l'histoire sexuelle de votre voisin avec ses vraies et ses moins connues relations, ou le dernier deal sur le business en cours de quelqu'un d'autre. Il y a un sujet général du secret en France qui n'est absolument pas maîtrisé à peu près partout.
Merci infiniment Alain Bauer. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent, vient de paraître aux éditions Edith Jacob. Merci d'être venu nous voir ce matin sur RTL et en direct.